Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Dans le concert de louanges entourant les célébrations du 50e anniversaire du traité de Rome, une voix s'est élevée pour dresser un bilan très sévère du projet unificateur qui pourtant fut d'inspiration démocrate chrétienne. Cette voix fut celle de Benoît XVI. Benoît XVI qui accusa effectivement l'Europe d'une singulière forme d'apostasie, accusation grave dans la bouche d'un pape, mais que son prédécesseur avait aussi utilisé en 2003. Je cite trois passages donc du discours du 24 mars 2007 de Benoît XVI. On ne peut pas penser édifier une authentique maison commune européenne en négligeant l'identité propre des peuples de notre continent. Il s'agit en effet d'une identité historique, culturelle et morale, avant même d'être géographique, économique ou politique. Plus loin, le pape se pose la question suivante : n'est-il pas surprenant que l'Europe d'aujourd'hui, tandis qu'elle vise à se présenter comme une communauté de valeurs, semble toujours plus souvent contester le fait qu'il existe des valeurs universelles et absolues. Et enfin, dernière citation du Saint-Père, une communauté qui se construit sans respecter la dignité authentique de l'être humain, en oubliant que chaque personne est créée à l'image de Dieu, finit par n'accomplir le bien de personne. Vous le voyez, nous sommes loin, très loin, des cloches de Saint-Pierre qui, à la demande de Pie XII, sonnèrent à toute volée pour saluer la naissance de l'Europe moderne le 25 mars 1957. Je vous propose aujourd'hui de découvrir cette idée européenne à travers le regard du Vatican au XXe siècle. À quand remonte le sentiment européen du Saint-Siège ? Quel rôle le siège du gouvernement de l'Église catholique joua-t-il dans l'émergence de l'idée européenne ? Cette conception européenne catholique a-t-elle toujours été en adéquation avec l'Europe moderne telle qu'elle se construisit dans la seconde moitié du XXe siècle? Autant de questions que nous allons donc aborder avec Philippe Levillain. Philippe Levillain, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre du comité pontifical des sciences historiques, professeur à l'Université de Paris 10, spécialiste donc de l'histoire de l'Église. Vous avez notamment dirigé un dictionnaire historique de la papauté paru chez Fayard et c'est la deuxième fois que je vous reçois avec plaisir au micro de Canal Académie. La dernière fois, un pape venait de mourir, un autre était sur le point d'être élu, Benoît XVI. Philippe Levillain fait beaucoup parler de lui en ce moment, l'exhortation apostolique, le sacrement de l'amour, le discours sur l'Europe, des rumeurs de libéralisation de la messe de Saint-Pie V. Nous sommes vraiment loin du pape de transition dont on parlait après la mort de Jean-Paul II.
Oui, on pouvait s'y attendre, parce que d'ailleurs je crois, sans vouloir vous rectifier, que le terme de pape de transition, contrairement à ce qui a été fait en 1958, quand Jean XXIII, l'archevêque de Venise, a été élu, est un terme qui était très peu utilisé au fond par les médias, plus d'ailleurs par les médias allemands que par les médias français ou italiens, en dépit du grand âge du souverain pontife qui a été élu à l'âge de 78 ans, proche de 79. Et donc, d'une certaine façon, ce qu'on remarque si on reprend les événements d'avril 2005, c'est que cet homme a imposé sa marque, sa figure, selon ce qu'il était déjà aux yeux de beaucoup en tant que préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi pendant 27 ans. Et qu'il n'y a même pas eu de spéculation faite sur son grand âge en disant ben voilà, effectivement, transition, vous le dites, on l'a un peu dit, mais il va ajouter quelque chose qui va probablement nous permettre d'attendre avec naturellement. Je dirais la possibilité qu'offre la médecine, un meilleur moment pour trouver un pape qui soit plus conforme peut-être au troisième millénaire. Alors je dirais que ce pape, qui était accueilli au balcon de Saint-Pierre avec quelques sifflements, alors que c'était longtemps qu'on n'avait pas entendu une pareille manifestation, s'est affirmé peu à peu et a rencontré au début une opinion publique relativement favorable. Malgré le fait que sa figure n'avait pas, du point de vue de la représentation, l'allure et la théâtralité à laquelle le monde entier avait été habitué pendant 27 ans. Et donc, Depuis, il ne fait que surprendre. Et c'est étonnant qu'il surprenne, dans la mesure où si on lit attentivement, sinon toute son œuvre, du moins la plupart de ses grands écrits, pour éclairer par arrière ses positions de maintenant, on se rend compte qu'il n'a guère changé et qu'il tient maintenant peut-être plus fermement, étant sur la chaire de Saint-Pierre depuis bientôt 2 ans, ou presque 2 ans, le discours qu'il a toujours tenu et qu'il donne petit à petit en fonction des circonstances, et peut-être aussi parce que son autorité est mieux assise. Alors, si vous voulez, je crois qu'il faut bien voir que le pape Benoît XVI, quand il est élu parce qu'il y a au fond une chose qui est frappante quand on regarde les événements de la semaine d'avril 2005, c'est une sorte de crainte qu'a eu le conclave devant l'événement du choix d'un successeur de Jean-Paul II, choix qu'il constatait bien qu'il devrait opérer un jour, mais qui en même temps, brusquement, l'épouvante devant le vide que représente cette mort, quelquefois d'ailleurs souhaitée, non pas parce qu'on considérait que le pape était vieillissant, mais je dirais pour le bien de l'Église et aussi pour sa propre personnalité qui était très affectée par une souffrance visible et d'ailleurs exposée pour la leçon de la souffrance aux yeux de l'humanité elle-même souffrante. Alors, il y a là un phénomène qui doit être regardé de près parce que ce pape est élu en 23 heures. Ce qui est un délai extrêmement court, c'est le délai le plus court du XXe siècle, sauf pour Pie XII, qui, lui, est, comme on dit, entré pape au conclave. D'une certaine façon, le cardinal Ratzinger rentre aussi pape au conclave. Beaucoup de journaux, même ceux qui ne sont pas très favorables au Saint-Siège, je pense même à un grand quotidien du soir, avaient parié, comme on dit, sur l'élection du cardinal Ratzinger, qui semblait être le socle le plus stable sur lequel on pouvait construire, je dirais, l'abside, non pas d'une nouvelle église, mais d'une église étendue avec un nouveau souverain pontife. Et donc, il y a eu une attente favorable qui, d'ailleurs, était pronostiquée. Et puis, il s'est passé que, progressivement, le pape a donné des signes de son tempérament propre, d'abord par des discours d'une très très grande clarté, qui contrastaient d'ailleurs avec le côté plus chantourné des propos de son prédécesseur, qui était plus philosophe que théologien. Et d'ailleurs, le théologien et le philosophe se complétaient parfaitement à la curie. Ratzinger et Jean-Paul II, c'était, je veux dire, un tandem. Et il y a eu cette attente. La première attente était marquée par celle classique, et je dirais d'une certaine façon éprouvée par le temps, de la première encyclique. Alors là, il y a un phénomène très intéressant, c'est qu'on croit savoir que non seulement Benoît XVI a rédigé de sa main l'encyclique Deus Caritas, ou Caritas est Deus d'ailleurs, mais qu'il n'a cessé d'y apporter des correctifs, qu'il a retardé du coup la publication, qu'on en a annoncé les principaux éléments dans la presse italienne, reprise ensuite par les médias internationaux, et que quand l'encyclique paraît, la patience qui est portée à son sommet est tout de même assez récompensée. Parce que dans Deus Caritas Est, Benoît XVI, au fond, apporte une nuance très très forte à la notion d'amour en disant que le désir de l'autre, qui peut être dans l'éros un désir de l'altérité physique, est le premier degré d'une marche vers l'union, qui est le désir de l'amour divin. Alors, cette considération, adornée d'ailleurs de beaucoup de littérature, de philosophie, de citations dans l'Ancien Testament, mais aussi de textes de références très modernes, épate, j'ose dire, le public qui se dit « mais au fond, voilà quelqu'un qui est très moderne et qui, au fond, étant un peu désincarné par rapport à l'athlète de Dieu, comme on disait, qu'était Jean-Paul II, a pris en considération l'homme dans sa dimension corporelle et dans les rapports entre son désir sensuel même, et ce que représente ce désir par rapport à la maîtrise qu'il peut en avoir en fonction du droit naturel, de la nature, et puis cette montée qu'il peut faire en progressant, dans le cas naturellement du mariage, dans le cadre d'une vie sacramentelle très régulière et conforme à ce que demande l'Église, vers l'agapé qui est véritablement le siècle au moment qui est véritablement le moment où l'union de l'âme avec le désir de Dieu s'opère. Donc, il y a eu là, d'ailleurs, des constatations qui étaient relevées par pas mal de médias et pas mal de revues, que l'encyclique était en cela très neuve. Et puis, d'ailleurs, l'encyclique s'est merveilleusement vendue, a été commentée de par le monde partout, et notamment en France. Et le pape a surveillé lui-même certaines des traductions. L'encyclique a été écrite d'abord en allemand, puis ensuite traduite en latin. Il y a aussi la richesse de la palette de la culture de Ratzinger, de Benoît XVI en l'occurrence, qui a ébloui. Parce qu'on n'était pas habitué à citations aussi inédites que voir paraître Erasme, que voir paraître Saint-Augustin.
C'est un homme qui a aussi un sens de la pédagogie, sans nul doute, parce que c'est un ancien professeur.
Alors c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, Joseph Ratzinger est un professeur de théologie fondamentale qui a fait sa thèse sur la cité de Dieu, qui est un augustinien, qui a fait un très gros travail avant Saint-Augustin sur Saint-Bonaventure, et donc qui a la vocation à l'enseignement, donc à la pédagogie. Et donc à ce va-et-vient entre les recherches et les méditations auxquelles il procède et l'enseignement, c'est-à-dire professer au sens propre, c'est-à-dire faire comprendre.
Alors, il ressort notamment, puisque le thème est cette question européenne, il a écrit deux ouvrages sur l'Europe. Son dernier, c'est l'Europe, ses fondements aujourd'hui et demain, qui est un ensemble, une compilation de conférences. On est impressionné par le nombre de références culturelles qu'il peut y avoir, que ce soit des références théologiques, mais des références également historiques.
Tout à fait. Je veux dire qu'il cite aussi bien Spengler que Toynbee, que Habermas, pour prendre les plus récentes de ces... Enfin, d'ailleurs, il a eu un dialogue très long avec Habermas, et c'est une des caractéristiques de ce pape. C'est un homme de dialogue, d'attention, et qui est très attentif au rapport entre philosophie, c'est-à-dire rationalité, ou disons métaphysique, et théologie. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Mais c'est un professeur, vous avez raison d'insister sur ce point. Alors, ce professeur est d'ailleurs très étonnant, parce que il reprend, il corrige, il perfectionne ses textes, c'est-à-dire qu'il a de grands soucis des échos. Je pense que d'ailleurs c'est une des choses qui explique le caractère segmenté des interventions qu'il fait. C'est-à-dire qu'il mesure la portée de ses propos et c'est très net pour le fameux discours de Ratisbonne. Et le discours de Ratisbonne, qui est donc prononcé en août 2006, est typiquement un discours de professeur. D'ailleurs, dans le discours, quand on le lit, on est frappé au début ce qu'il rappelle, l'atmosphère qu'il y avait à Ratisbonne quand il était à un moment donné jeune professeur, et le fait qu'il a connu les difficultés de relations entre la faculté de théologie catholique, la faculté de théologie allemande, dans une atmosphère qu'il représente par rapport à ce qu'est aujourd'hui, même dans le monde entier, enfin, surtout en Europe université, un silence extraordinaire, un échange de courtoisie, des propos extrêmement élevés. Il y a une nostalgie dans le discours de Ratisbonne, qui est étonnante dans les premières pages du discours. Et ensuite, il y a effectivement l'utilisation étonnante de cette discussion philosophique et théologique entre l'empereur byzantin et le sage iranien, et que là, je veux dire que les gens sont dépassés. C'est-à-dire qu'on est dans l'ordre de ce qu'on peut appeler véritablement la discussion au sens médiéval du terme.
La disputatio.
Alors, cela a tenu, mais dans l'ordre, je dirais, de la précision. Le discours a été mal reçu, mais on reviendra peut-être là-dessus. Il était fatal qu'il soit mal reçu. En plus, il est prononcé le 12 septembre 2005. On lui prête donc une intention anti-islamique notoire, puisqu'il est prononcé le lendemain de la commémoration des attentats du 11 septembre. Et le pape n'avoir cesse de le corriger et d'y mettre in coda un ensemble impressionnant de notes, en tout cas 14 notes extrêmement détaillées, pour expliquer encore mieux ce qu'il a voulu dire. Et d'ailleurs, le discours original, d'ailleurs dans sans notes, va disparaître du site internet du Vatican à un moment donné. Donc, c'est bien une rareté que d'avoir les deux discours. C'est une rareté bibliographique en tout cas. Et il y a là une volonté de correction, d'adaptation. Alors, on peut parler du discours de Ratisbonne, mais vous parlez de la transition. Non, parce que indiscutablement, c'est quelqu'un qui prend les problèmes les uns après les autres. Le discours de Ratisbonne a lieu et prononcé le lendemain du 11 septembre 2005. Le pape va ensuite en Turquie. C'est fondamental. Le pape, vis-à-vis de la Turquie, n'est pas dans les sentiments d'Innocent XI qui voulait absolument bouter les Turcs hors de l'Europe et du monde occidental. D'ailleurs, Innocent XI était un peu, je veux dire, le premier qui a une conception européenne de ce que pouvait être par rapport à l'Orient, ou du moins le Proche-Orient, sur l'Église. Mais il avait dit non à propos de l'entrée de la Turquie dans la communauté européenne, à l'élargissement à 27. Puis là, dans une union de prière, dans une attention, dans des considérations plus spirituelles que proprement stratégiques et surtout politiques, il adoucit sa position en disant qu'il y aurait peut-être des conditions qui permettraient que Donc c'est la porte ouverte. Et ce qui est très intéressant dans ce pontificat, qui n'est donc à cet égard tout à fait singulier, c'est que Benoît XVI laisse à chaque fois la porte ouverte à la discussion et à sa propre réflexion sur la discussion.
Alors, quelle est la place de l'idée européenne dans la pensée pontificale? C'est ce que je vous propose de voir Philippe Le Vilain après cette première pause.
La maladie d'Alzheimer est un domaine de la recherche qui est en friche. Il reste encore beaucoup à découvrir. Canal Académie vous propose un état des lieux avec professeur Jean-Jacques Auve, spécialiste du vieillissement du cerveau, et le docteur Jean Petitpré, qui est président de la Fondation France Alzheimer. Nous vous proposons également de découvrir cette association France Alzheimer qui œuvre à une meilleure prise en charge de la maladie et vient en aide aux familles. Ces deux émissions sont disponibles sur notre site.
Nous reprenons le cours de notre émission. Je reçois Philippe Le Vilain, historien, spécialiste de l'histoire de l'Église. Vous avez dirigé le dictionnaire historique de la papauté. Alors nous évoquons la question européenne. Bon, nous avons commencé cette émission en parlant de cette personnalité fascinante, Benoît XVI, qui est d'ailleurs membre, correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques. Alors peut-être venons-en au sujet de l'Europe. L'Europe, c'est une vieille idée en fait dans l'Église.
On peut dire ça, c'est-à-dire que on peut dire qu'à l'Empire romain succède l'universalité romaine et que l'universalité romaine se répand dans l'ensemble de la péninsule, si je veux dire, occidentale du continent qu'il y a là petit à petit le sentiment que cette Église au départ dans une extension improbable. Je veux dire que le passage de Jérusalem à Rome est tout de même une extension improbable. Les périples que font les divers apôtres tout autour de la Méditerranée donnent le ton d'une sorte de tâtonnement dans l'extension du message évangélique. Je pense que l'idée d'Europe naît parallèlement avec l'affirmation de l'Empire carolingien et du couronnement de Charlemagne à Rome en l'an 800. À ce moment-là, il y a coïncidence entre le pouvoir temporel et impérial et le pouvoir spirituel. C'est le pouvoir spirituel qui donne à l'empereur, agenouillé sur un disque de porphyre qu'on voit à l'entrée de la basilique Saint-Pierre et qui a été conservé dans la reconstruction de la basilique après la destruction de la basilique constantinienne, qu'on voit comme étant le symbole même de l'union, de ce qu'on appellera le trône et l'autel, mais plutôt de la potestas spirituel et de le pouvoir temporel. À ce moment-là, à l'Empire carolingien coïncide dans l'esprit des papes qui vont subir ensuite des invasions successives et qui vont se trouver simplement contenus dans la péninsule italique par la fausse donation de Constantin, une conscience européenne. On peut dire que la conscience européenne de l'Église est liée au fait que le christianisme remplace la splendeur païenne de l'Empire romain. C'est vrai, au Moyen-Âge, c'est lié aussi à l'affirmation d'un style de société. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on peut dire que la phrase de Jean-Paul II, disant qu'au fond, l'Église a versé dans le lit du fleuve Europe les éléments profonds des caractéristiques d'une société civile spécifique, c'est-à-dire ouverte avec des élections, dans le cadre en particulier des ordres monastiques, avec une attention aux pauvres, avec la dévotion, avec la piété, avec une hiérarchie protectrice. Je ne nie pas le côté très idéal qu'il y a dans cette vision, mais disons que c'est la retenue la plus symbolique qu'en a fait Jean-Paul II, qui a beaucoup parlé de l'Europe, qui en a parlé plus que ses prédécesseurs, et pour le moment que ses successeurs. Et on va vers quelque chose qui, une conscience qui s'affine. J'ai parlé tout à l'heure d'Innocent XI. Innocent XI est celui qui perçoit le mieux qu'il y a un dessin géographique européen au moment où il est en but aux attaques de la Turquie. L'Europe est en but aux attaques de la Turquie. Et à ce moment-là, d'ailleurs, Innocent XI sera cité par Bidouze au moment du traité de 57. C'est pas innocent, tu veux dire.
Est-ce que quand Benoît XV parle de l'Europe qui se déchire, quand l'idée, même Léon XIII, je crois que c'est Andrea Riccardi dans le dictionnaire historique de la papauté,
dans Immortelle Dei,
voilà, en parlant de l'Europe, il pense à cette idée médiévale européenne?
Certainement, absolument. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que dans toute la pensée européenne au XIXe siècle, il y a un retour très notoire à l'image médiévale d'une société parfaitement articulée en trois ordres, hein, l'aristocratie ou la noblesse, le clergé et donc les laboratoires, c'est-à-dire en fait les paysans, avec le principe de la protection du suzerain, du vassal, avec le principe de la trêve de Dieu. Et donc, il y a un mythe médiéval, au sens propre, de l'idéal chrétien, avec, d'autre part, le retour à l'idée d'une théocratie grégorienne qui serait une organisation de l'ordre des sociétés en fonction d'une remise de la confiance entre les mains du littérature des clés de Saint-Pierre. Bon, ceci est vrai pour le XIXe siècle. Léon XIII, d'ailleurs, n'est pas très porté à commenter le Moyen-Âge, mais enfin, c'est un néotomiste aussi. C'est-à-dire qu'il a l'idée de ce qu'on appelle la societas perfecta, c'est-à-dire qu'il y a, et ça, Benoît XVI le dément dans son récent ouvrage, enfin, dans l'Europe, ses fondements aujourd'hui et demain, c'est-à-dire que d'une société qui, sur Terre, serait au fond l'image ombrée, grise de ce qu'est ensuite la cité de Dieu, selon une version d'ailleurs très mal expliquée par les commentateurs en général, de ce qu'est le néotomisme et de la pensée de saint Augustin.
Alors, l'idée d'Europe au XXe siècle évolue, bien évidemment. Est-ce que la date de 1945 est une date majeure dans la conception européenne de l'Église ? Parce qu'on a l'impression qu'avant 1945, eh bien, c'est ce que Ernst Nolte appelait la guerre civile européenne. Donc, on ne pouvait guère penser à cette idée. Que du côté de l'Église, avant les accords du Latran, c'était plus la question du Vatican et d'État et des États pontificaux qui primaient. Alors qu'après 1945, avec Pie XII qui a défendu cette Europe, eh bien, il y a une nouvelle conception, une conception même réaliste de la question européenne.
Oui, mais il ne faut pas, je vous suis tout à fait, il ne faut pas écarter trop la prise de la conscience européenne pour la prise, je ne dis pas la crise, mais il ne faut pas écarter la conscience européenne de l'Église prise à l'occasion de la Première Guerre mondiale et dans l'entre-deux-guerres. Parce que Benoît XV, vous l'avez dit tout à l'heure, est très très soucieux de proposer aux nations en guerre une union qui soit le fruit d'une vraie civilisation européenne. C'est-à-dire la capacité de comprendre la paix au sens médiéval du terme, c'est-à-dire non pas la cessation des hostilités, comme sera demandé par la note du 1er août 1917, mais comme l'expression d'une harmonie entre les cultures, avec le sentiment que les diversités culturelles sont en quelque sorte ethniques et nationales, mais qu'elles sont toutes régies par un dénominateur commun qu'est le christianisme, qu'il soit catholique ou qu'il soit protestant. Ça, c'est très important. Benoît XV, dans ses divers appels, le dit, et d'ailleurs dès septembre 1914, quand il succède à Pie X. Pie XI est très défiant vis-à-vis de la société des nations, comme vous savez, puisqu'il considère que d'abord elle est supranationale et qu'elle n'a pas de pouvoir. Il considère qu'elle est noyautée par les protestants et les francs-maçons et qu'il n'aime pas ce pouvoir de type supranational et politique qui contrebalance un pouvoir véritablement spirituel. C'est-à-dire, il oppose le spirituel aux mécaniques de la concertation. Mais il voit très bien ce que représente la société des nations dans le concert de la paix. C'est effectivement après 1945 que la construction européenne vient être appuyée par le Saint-Siège et qu'on a pu parler à tort, je crois, d'une Europe vaticane, c'est-à-dire d'une Europe à laquelle le Saint-Siège aurait voulu présider, ce qui est faux, en organisant une sorte, je dirais, de théocratie douce qui ferait que les partis catholiques seraient des forces médiatrices et des forces de polyphonie à l'intérieur des sociétés civiles. Alors c'est vrai, Pie XII parlera beaucoup de l'Europe. Pie XII fera sonner les cloches de Saint-Pierre de Rome en 1957. Pie XII parlera de l'Europe en des termes qui sont des termes conduisant dans son esprit politiquement à la supranationalité.
À la différence de son prédécesseur.
Il fera en sorte, il aura, par rapport à ce qu'on appelle l'Europe vaticane, il y a un livre de Philippe Chéneau qui s'appelle « Une Europe vaticane, point d'interrogation ». Le point d'interrogation est plus important que le titre. Enfin, il faut le titre pour le point d'interrogation, c'est sûr. C'est-à-dire que l'appui donné par le Saint-Siège aux trois fondateur de l'Europe, père fondateur, c'est-à-dire Robert Schuman, Conrad Adenauer et Gasperi, est un appui d'observation et d'encouragement, mais pas un appui direct. La preuve en est, c'est qu'en 1947, au moment des élections législatives en Italie, après l'avènement de la République de 1946, mais qui prend effet le 2 janvier 1947, le Saint-Siège, ça a été prouvé, n'intervient pas directement en faveur de la démocratie chrétienne de Gasperi. Il laisse c'est-à-dire les réseaux catholiques œuvrer par capillarité. Et ce qui est très intéressant, c'est que Pie XII a toujours eu le sentiment qu'il y avait au moins trois étages dans la construction européenne par rapport à l'Église catholique. L'étage supérieur, c'est sûrement le Saint-Siège. L'étage juste en dessous, ce sont les dirigeants politiques. Et l'étage général, enfin l'étage le plus large, le rez-de-chaussée, c'est le rôle des militants, le rôle des laïcs, le rôle des, de peuple de Dieu, comme dira Vatican II, qui est chargé de porter, d'étendre et de diffuser, de dilater le principe européen. Ça, c'est très important. C'est pour ça que, dans la pensée de Pie XII, l'Europe se fera par les peuples, il le sent, contre les nations, avec l'unité que représente l'Église catholique dans son universalité. Mais il n'a pas appuyé, je dirais, de façon souterraine, par des manœuvres qu'on a toujours cherché à identifier, les idées des trois fondateurs que je viens de citer. En revanche, il les a encouragés. Mais à partir de... Il a été prouvé, par exemple, que Pie XII ne donne pas d'ordre pour la démocratie chrétienne à De Gasperi. Et que c'est De Gasperi tout seul, en tout cas s'il lui en donne, ou s'il lui en donnait, De Gasperi tout seul qui décide finalement de former un gouvernement tripartite alors que les élections législatives donnent à la démocratie chrétienne la majorité en siège. C'est lui qui décide de l'ouvrir au Parti communiste italien.
Alors, est-ce que l'idée d'Europe chez Pie XII doit également, j'allais dire, s'affirmer contre, en l'occurrence, le communisme à cette époque?
Alors, on peut dire que dans la conception, enfin dans la conscience européenne, ou la conscience que le Saint-Siège a d'une vocation européenne et une participation à la construction européenne, il y a deux ennemis qui se sont constamment présentés selon des phases diverses. Il y a l'islam dès le XIIIe siècle et il y a le communisme à partir de 1945. Il y a chez Pie XII effectivement une obsession vis-à-vis du développement des communistes, vis-à-vis des pays de l'Est et donc du rideau de fer et de la menace communiste. Alors en Italie, il la voit très très près puisque le Parti communiste italien est une force d'ailleurs encore plus puissante qu'il ne l'est en France en 1944-45. Et puis Pie XII reflète cette mentalité qu'on appelle la mentalité du rempart, en Italie, il baluardo, et il pense que, d'une certaine façon, le catholicisme servira de limès, c'est-à-dire de frontière tout à fait non poreuse pour arrêter la menace communiste, c'est sûr. Et donc, la construction européenne à laquelle il va applaudir, et de le passage, espère-t-il, d'une union économique, enfin de la CECA, si vous voulez, au traité de Rome, pour lui est fondamentale et il la saluera comme il convient.
Alors, vous avez organisé avec la Fondation Saint-Gé-Polignac, Hélène Carrère-Dancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, et donc vous, en tant que professeur à l'Université de Paris-10-Nanterre, un colloque intitulé « Nation et Saint-Siège au XXe siècle ». Au cours de ce colloque, vous avez invité Philippe Cheneau, que vous citiez tout à l'heure, qui lui a traité la question « L'Europe et le Saint-Siège » jusqu'en 1978. Et c'est dans cette intervention que Philippe Cheneau voit un tournant, finalement. Il dit que quand la démocratie chrétienne pèse de moins en moins dans la question européenne, eh bien, paradoxalement, la place du Saint-Siège, elle, tend à se développer.
Vous voulez parler des partis démocrates chrétiens,
oui,
c'est ça?
Oui, oui.
Oui, c'est pas faux. En tout cas, s'il le dit, c'est certainement vrai. C'est un collègue tout à fait brillant, donc il écrit ce qu'il sait, ce qu'il pense. Oui, c'est vrai, parce que la démocratie chrétienne comme inspiration, c'est-à-dire la troisième démocratie chrétienne, c'est-à-dire il y a une démocratie chrétienne, en tout cas en France, sous la Seconde République, il y a une seconde sous la Troisième République, et la troisième, c'est celle de 1945. En Italie, c'est pas le cas, tout à fait, puisque les Italiens sont privés de droit de vote par le vote du Saint-Siège jusqu'au début du XXe siècle. Enfin, sont encouragés à ne pas voter, si j'ose dire. Mais la démocratie chrétienne du lendemain de la Seconde Guerre mondiale, étant donné qu'elle est, qu'elle s'approprie la partitocratie, si vous voulez, fait difficulté parce que fatalement, elle est terriblement politisée. Et donc, il est vrai qu'au fur et à mesure que la démocratie chrétienne s'affaiblit, l'idée européenne telle que le Saint-Siège la défend prend de l'ampleur. Mais je crois surtout que les papes raisonnent tout à fait autrement. Si vous voulez, le passage, c'est plutôt celui de Pie XII à Paul VI, c'est entendu qu'entre-temps, il y a eu Jean XXIII et le Concile.
Alors, justement, si vous me permettez, Philippe le Vilain, que pense Jean XXIII de cette question européenne et surtout, quel rôle joue notamment la fameuse hoste politique dans cette conception européenne? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Nous entamons la troisième partie de notre émission consacrée à la papauté et au Saint-Siège et à l'Europe. Nous en étions, Philippe le Vilain, vous êtes professeur à Nanterre, nous en étions au moment de la politique de Jean XXIII, Jean XXIII qui développe la fameuse hoste politique. Et c'est un élément très intéressant parce que nous, en tous les cas, notre génération, nous avons tendance à ne voir la papauté qu'à travers Jean-Paul II qui concevait l'Europe avec deux poumons, le poumon de l'Ouest et le poumon de l'Est. Et Jean XXIII, finalement, il pensait la même chose. Il voyait ces deux poumons, Est et Ouest, d'où cette hoste politique.
Alors, il le voit, mais il ne le dit pas. C'est-à-dire que la formule, les deux poumons, il est Jean-Paul II. C'est important. C'est-à-dire qu'en fait, il verbalise quelque chose que ses prédécesseurs avaient observé. Ce qui est certain, c'est que, pour remonter un peu plus haut, l'anticommunisme qui caractérise la politique extérieure ou la situation du Saint-Siège dans la relation internationale, comme vous voulez, est en mauvaise situation au moment où Pie XII meurt en 1958. D'abord, il y a eu la déstalinisation, Khrouchtchev, il y a une évolution dans la guerre froide qui tend à ce que les deux puissances se concertent, ou du moins dialoguent. Ça n'empêchera pas l'affaire de Cuba. Mais Jean XXIII, qui a une très grande expérience des pays de l'Est, qui a été délégué apostolique en Bulgarie, qui était aussi en Turquie, ça c'est pas un pays de l'Est, mais qu'après ça il est passé en Roumanie, est conscient qu'il faut faire quelque chose vis-à-vis des catholiques de ces pays sous tutelle, sous le joug soviétique. L'os politique est une invention de Paul VI, c'est-à-dire du jeune Montini. Le jeune Montini, qui est pro-secrétaire d'État avec Monsieur Tardini sous Pie XII, est le premier à avoir l'idée qu'on ne peut pas avoir, quand on est chrétien, quand on est donc un catholique romain, une politique qui soit inféodée aux vues stratégiques et aux vues idéologiques des États-Unis.
Ce qui sera ce qu'il mettra dans une situation délicate
voilà.
Vis-à-vis de Pie XII.
Alors, Pie XII, qui a une dilection profonde pour son jeune pupille, n'est tout à fait hostile à cette idée que l'on peut, par ce qu'on appellera plus tard la politique des petits pas, obtenir des concessions progressives de la part des pays de l'Est et de la part du monde communiste en général, notamment pour la libéralisation des comportements vis-à-vis du clergé et la libération du comportement vis-à-vis de la pratique. Et Pie XII se séparera de Montini en 1953 et il enverra sur le siège de Saint-Ambroise et de Saint-Charles Borromée, c'est-à-dire à Milan, pour attendre, c'est-à-dire c'est la fameuse formule « promoveatur ut amoveatur », c'est-à-dire on le promeut pour le bouger, pour attendre, je dirais sinon des jours meilleurs, en tout cas pour appliquer son génie pastoral à autre chose qu'à la politique extérieure. Alors, ce qui est vrai, c'est que Jean XXIII, en arrivant, se rend compte que, par le biais d'un concile œcuménique, il peut beaucoup pour la libération des églises des pays de l'Est. Dans le concile œcuménique, qui est annoncé comme une probabilité, pas comme une certitude, par Jean XXIII le 25 janvier 1959, il y a trois éléments. Il y a d'abord, je dirais, une riposte assez ironique de la part de Jean XXIII à l'idée répandue qu'il est capable de transition. Et corrélativement, l'idée qu'il est un bon gros pape, mais qu'au fond, il n'a pas beaucoup d'idées sur la façon dont on peut gouverner l'Église catholique et romaine. La seconde idée est qu'il y a tout de même une fermeture dans le domaine de la vie intérieure de l'Église sur le plan exégétique et d'autre part sur des questions qui sont celles, par exemple, des rapports entre pastoral et comportement d'obéissance au sein de la hiérarchie. Et la troisième idée, c'est qu'il faut justement faire en sorte que l'ensemble des docteurs de l'Église, donc près de 2500, se réunissent pour ouvrir l'Église au monde. Il y a deux pôles dans Vatican II. Il y a ce qu'on appelle le pôle ad intra, le pôle ad extra, qui d'ailleurs est une invention conjuguée du cardinal Montini et du cardinal Swenens, primat de Belgique. C'est-à-dire un axe qui est l'Église retournée vers elle-même pour se comprendre, corrélativement à l'Église retournée vers le monde, qui l'aide à se comprendre. Et cet axe est un axe qui est en rotation, c'est-à-dire que plus l'Église se comprend, mieux elle parle au monde, et plus le monde comprend qu'on le comprend, mieux l'Église peut parler au monde. C'est une dynamique extrêmement subtile qui est mise au point le 4 novembre 1962 par le cardinal Montini, cardinal Swenens, qui va changer la perspective du concile. Qu'est-ce que voulait Jean XXIII ? Il voulait un concile qui soit une longue assemblée, c'est-à-dire une énorme assemblée de 6 mois, qui traite de la plupart des problèmes en cours et qui, quelque sorte, éveillent les consciences, mais n'apportent pas forcément des solutions, ou en tout cas des réponses qui soient très très nouvelles. Aggiornare, ça veut dire mettre en mouvement le principe d'une réforme, c'est-à-dire simplement, je dirais, d'un pas vers le côté ou d'un pas en avant.
Bon. Donc l'ost politique est une conséquence de...
Alors,
de cette vision.
Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il n'est pas beaucoup question d'Europe à Vatican II. C'est une chose extraordinaire que les évêques du monde entier, aussi bien évêques résidentiels que évêques titulaires, c'est-à-dire évêques auxiliaires, plus les supérieurs des congrégations religieuses, plus les supérieurs de certains instituts religieux, plus les experts, dont Joseph Ratzinger, pour beaucoup de théologiens français, plus les observateurs étrangers, fait que, si j'ose dire, le monde est réuni à Rome de septembre 1962 jusqu'au 8 décembre 1965 et antécédemment, et qu'il est très peu question d'Europe. Je veux dire, Vatican II offre une vision mondiale, une radiographie mondiale de l'Église qui est effectivement prise entre le premier 20e siècle et la fin du 19e et la deuxième partie du 20e siècle. Il n'est pas beaucoup question d'Europe. Et c'est justement avec la mort de Jean XXIII, le 3 juin 1963, que l'élection, moins attendue qu'on ne l'a dit, du cardinal Montini, archevêque de Milan, va changer la donne. Et que, menant le Concile Vatican II vers sa fin, c'est-à-dire jusqu'en 1965, Paul VI va lancer la fameuse ost politique dont le cardinal Casaroli, le futur cardinal Casaroli, futur secrétaire d'État de Jean-Paul II, sera l'instigateur. Qu'est-ce que c'est que l'ost politique pour Paul VI ? C'est le rapprochement avec non seulement les États communistes, mais c'est aussi le rapprochement avec les autres religions qui sont incluses, donc les orthodoxes. Et par conséquent, Paul VI pense parfaitement à son rapprochement avec Moscou, ce qui est très important, de même qu'il pense au rapprochement avec les orthodoxes grecs. C'est un élément d'ouverture, c'est aussi un élément d'horizon. Il ne faut pas oublier que Paul VI, en 1964, recevra le patriarche Athénagoras et qu'ils déposeront sur les autels la fin des excommunications que l'Orient et l'Occident s'étaient échangés en 1054. Donc c'est la fin du schisme byzantin. Et c'est la reconstruction, je dirais, d'une église occidentale dont le cadre européen est très très large. Et qui d'ailleurs pose déjà la question de la Turquie.
Alors, en fait, justement, Saint Benoît était considéré, et toujours, le saint patron de l'Europe. Pie XII en avait fait le père de l'Europe, Paul VI en a fait le saint patron de l'Europe. Avec l'Est qui arrive, c'est Jean-Paul II qui, à côté de Saint Benoît, pose Saint Cyril et Saint Méthode comme les deux autres, les deux co-saint patrons de l'Europe. Avec Jean-Paul II, finalement, l'idée des deux poumons arrive complètement à maturité. C'est lui qui fait le lien entre les deux.
Alors, il faut voir qu'il y a deux étapes, enfin, il y a deux phases. Jean-Paul II, d'abord, je dirais, est élu, comme vous savez, après avoir eu déjà des voix au conclave d'août 1978 pour la succession de Paul VI, et donc élu le 18 octobre 1978, parce que, d'une certaine façon, il évite de trancher entre le parti anticonciliaire et le parti conciliaire. Et donc, comme il a participé à Vatican II, et on le sait, essentiellement sur des questions qui touchent précisément dans les rapports avec l'Église et le monde, sur ceux de la liberté religieuse, sur ceux du communisme, et il a été un de ceux qui sont opposés à la condamnation du communisme demandée par des groupes assez importants, le coetus internationalis patrum, dont c'est parti Monseigneur Lefebvre, mais d'autres personnes aussi. Jean-Paul II arrive un peu à la demande d'un conclave qui souhaite que la question des rapports de l'Église romaine avec les autres églises, avec les églises des pays de l'Est et les autres églises soient résolues. Et on élit un Européen. Ce n'est pas seulement un Polonais qu'on élit. Le conclave élit en 68 un Européen. Et quelqu'un qui a une très grande connaissance, d'abord de ce que c'est que, si j'ose dire, vivre la liberté religieuse dans le cadre d'un régime communiste, qui est très très subtil dans sa façon de traiter le mouvement catholique en Pologne, et d'autre part qui avait une perception très très grande, dont témoignait son usage extraordinaire de toutes les langues, de ce qu'était l'univers européen, c'est-à-dire la civilisation européenne dans son ensemble. Alors, c'était pas une élection d'un pape polonais qui, a-t-on dit, au fond, dans une certaine façon de chercher dans un monde où le baroque a beaucoup fleuri, comme en Italie, un peu une compensation de ce qu'on n'avait pas. Non, c'est quelqu'un qui... Alors, Jean-Paul Leu va parler beaucoup de l'Europe, mais au début, il faut le rappeler, c'est pas beaucoup dit. Jean-Paul Leu a une conception très impétueuse de la façon dont il va, si j'ose dire, obtenir qu'on libéralise la pratique religieuse et surtout d'obtenir la liberté religieuse dans l'ensemble des pays de l'Est. Et cette pratique impétueuse va durer jusqu'au lendemain de son attentat. Il n'est pas improbable que l'attentat du 13 mai 1980 ait fait réfléchir Jean-Paul II sur sa façon d'être très brutale dans les relations avec les gouvernements communistes vis-à-vis de la hiérarchie, vis-à-vis des abbayes, vis-à-vis des congrégations. Et le grand artisan de l'os politique très montignienne que Jean-Paul II va conduire, c'est le cardinal Casaroli, qui sera son secrétaire d'État après la mort de cardinal Villo en janvier 1979, mais qui va prendre du temps avant de s'installer, c'est-à-dire de persuader un pape très têtu, en tout cas qui savait ce qu'il voulait, très volontariste, qu'on ne peut pas pratiquer par coup de boutoir. Cyril et méthode, c'est les coups de boutoir. Ça veut dire, voilà, nous vous montrons qu'il n'y a pas seulement l'athéisme, l'agnosticisme, l'athéisme et la persécution, vous avez des saints et nous les consacrons patrons de l'Europe, eux aussi, parce qu'il y a les forces vives, donc les racines chrétiennes de l'Europe qui doivent être ravivées de façon à ce que l'Europe retrouve son âme, c'est-à-dire une spiritualité qui fasse qu'elle ne soit pas gouvernée dans l'ordre de la rationalité, mais qu'elle soit gouvernée selon l'ordre de la combinaison très subtile entre la raison et la foi.
Mais alors, ce qui est d'étonnant aussi, et ça Jean-Marie Mayer le dit hein, dans le colloque que vous avez organisé, Nation et Saint-Siège au XXe siècle, dont les actes ont été publiés chez Fayard, c'est que Jean-Paul II, parallèlement à cette question communiste, parle très tôt de la crise européenne, la crise occidentale européenne dès 1982, et les reproches qu'il fera et qu'il continuera à faire tout au long de son pontificat contre les dérives, par exemple, éthiques, ou bien les dérives sur les questions familiales, etc., eh bien, font partie intégrante de ses discours dès le début des années 80, c'est-à-dire 4 ans après son élection.
Oui, alors, ça, je veux dire, d'ailleurs, c'est un discours que Benoît XVI poursuit. Oui, c'est-à-dire qu'il y a chez Jean-Paul II la volonté de ne pas opérer de concessions au nom d'un passé mal interprété, au nom d'une imagerie un peu pieuse, d'une chrétienté qui, au fond, n'avait pas dans l'esprit des gens une identité propre, simplement un espace, un souverain pontife, des rois catholiques, etc. Et il essaye de ramener les chrétiens vers le centre de leur appartenance, non pas vers Rome, mais vers ce que c'est véritablement que l'adhésion au christianisme. Donc, ce qu'il refuse dans sa pensée, qui est une anthropologie très, très forte, c'est la destruction de l'homme par lui-même, au nom, destruction qui s'opère selon lui, au nom d'une volonté d'appropriation de l'homme sur lui-même qui le conduit à des comportements qui sont des comportements à ses yeux destructeurs. Donc il est comme Paul VI.
L'individualisme, l'hédonisme.
Mais il est donc comme Paul VI avec l'encyclique Humanae Vitae en 1968, très hostile à tout ce qui détruit la famille, à tout ce qui détruit l'éducation, à tout ce qui décrit le sacré de la vie sacramentelle, donc le mariage, donc l'ordination, à tout ce qui peut attenter à la vie, donc à l'avortement, et à tout ce qui est une dérision à ses yeux d'institutions qui sont fondamentales, comme par exemple l'union homosexuelle. Mais ça, c'est un discours tellement... Alors, évidemment, on peut dire que les deux choses n'ont rien à voir. Non, ce qui est, chez Jean-Paul II, perceptible dès l'instant, c'est qu'il a une vision très claire de ce que doit être le rôle du christianisme en Europe, mais qu'il n'hésite pas pour autant à ne pas transiger. Mmh. Jean-Paul II, à sa façon, est un intransigeant. Mais c'est une image effacée par le fait que, un, il a fait je ne sais combien de fois le tour du monde, je crois que c'est l'équivalent de 7 fois de voyage de la Terre à la Lune. Il avait une présence physique charismatique, disons les choses, et que c'est établi très tôt dans l'opinion publique, vous le savez, l'idée que le pape représentait la norme et qu'il y avait ensuite la pratique. Et qu'on était libre de ne pas l'écouter. C'est-à-dire que d'ailleurs, la popularité de Jean-Paul II est singulière par rapport à la baisse de la pratique dans le catholique dans les pays occidentaux, à la déchristianisation très vite et surtout à la sécularisation.
Mmh, mmh. Nous avons commencé, Philippe Le Vilain, avec Benoît XVI. Nous allons terminer avec Benoît XVI. Que pense Benoît XVI de cette Europe ? C'est ce que nous verrons après cette toute dernière pause. À tout de suite.
La médiathèque de Canal Academy, c'est plus de 800 émissions en libre téléchargement. Vous avez aimé ce programme ? Vous avez apprécié cette émission ? Vous aimeriez réentendre cet académicien ? Retrouvez cette émission dans la médiathèque de Canal Academy. Le téléchargement est gratuit.
Nous entamons la dernière partie de notre émission. J'ai l'honneur de recevoir Philippe Le Vilain, historien, professeur à Nanterre. Vous avez dirigé, Philippe Le Vilain, le dictionnaire historique de la papauté. Vous préparez un ouvrage consacré à Benoît XVI. Nous en reparlerons en fin d'émission. Alors, nous entamons la dernière partie. Vous dites d'ailleurs dans votre futur ouvrage que c'est un pape du XXe siècle. Il y a sans conteste sur la question européenne une filiation entre Jean-Paul II et Benoît XVI.
Oui, alors cette filiation, elle est plus claire maintenant sur la question de l'Europe, indépendamment du fait que par ailleurs, Benoît XVI imprime son style, sa marque, comme on l'a dit antécédemment, sur tous les actes qui sont les siens. Cette filiation tient au fait d'abord que Benoît XVI a été un long collaborateur, enfin Ratzinger était un long collaborateur de Jean-Paul II, et qu'il s'occupe d'Europe parce qu'il est allemand. Et que, je dirais, la question européenne est au cœur de ses préoccupations de jeune Allemand, qui, vous savez, il le raconte dans son autobiographie, c'est la première fois d'ailleurs qu'un pape est élu en ayant à son actif déjà une biographie, une autobiographie, à savoir qu'il était obligé de se laisser enrôler dans les pelotons anti-DCA en Allemagne en 1944, et il a une très grande conscience de ce que représente le destin tragique de l'Allemagne dans l'entre-deux-guerres et le rôle de l'Allemagne dans la Seconde Guerre mondiale. Donc, il cherche véritablement à voir comment on peut construire, dans le sillage de ses prédécesseurs, une Europe qui soit une Europe spirituelle.
Ce n'est pas un hasard, d'ailleurs, s'il prend le nom de Benoît.
Alors, il prend le nom de Benoît, effectivement, à cause de Benoît XV, à cause de Benoît XIV, on le dit moins, qui était un pape du VIIIe siècle, qui était très ouvert aux réformes, etc., mais qui était aussi un homme très savant, et à cause de Benoît Nursi. D'ailleurs, petite anecdote, c'est que le 1er avril, donc la veille du jour où Jean-Paul II mourra, Benoît XVI prononçait à Subiaco une conférence sur Saint Benoît et la culture européenne. Mmh. Voilà. On a dit d'ailleurs que c'est à cause de ça qu'il avait prévu en quelque sorte qu'il serait élu. C'est faux, c'était un hasard pur.
Alors, il a écrit deux ouvrages, hein, je me répète. Un tournant pour l'Europe, un ouvrage publié chez Flammarion. C'est une coédition, Flammarion et des éditions Saint-Augustin, paru en 1996. Malheureusement, un ouvrage épuisé. En revanche, nos auditeurs peuvent trouver l'Europe, ses fondements aujourd'hui et demain. Donc, Benoît XVI, le dernier livre du cardinal Ratzinger, donc à l'époque où il était encore cardinal. Alors, dès les premières pages de l'Europe, ses fondements aujourd'hui et demain, il a une approche historique, hein, très historique, un peu comme vous nous avez présenté l'Europe catholique tout à l'heure, avec notamment cette question carolingienne. Mais il critique très vite la sécularisation de l'État, exactement comme le faisait Jean-Paul II. Et son discours qu'il vient de prononcer à l'occasion de l'anniversaire donc, du traité de Rome, c'est un discours très court, mais c'est un discours qui ne fait aucune concession.
Alors, c'est un discours qu'on peut lire de deux façons. On peut lire de façon très pessimiste ou on peut le lire de façon constructive.
Lisons-le de façon constructive.
Les médias sont emparés de façon très pessimiste, mais je crois d'ailleurs qu'il faut le constater, c'est que l'image de Benoît XVI est en train de se dégrader très fortement dans l'opinion publique, non pas qu'on le critique, mais surtout par le fait qu'on lui accorde de moins en moins d'intérêt. C'est pas tant quand on lit la presse, le nombre de lignes qui lui sont consacrées ou la place que l'on donne à ses actes est tout à fait en régression. Alors, l'aspect pessimiste, c'est dire, voilà, un homme qui désigne la décadence et qui, au fond, explique que l'Europe est en voie de désagrégation et qui s'en plaint et qui, pour ce faire, verbalise en disant « je réclame les racines chrétiennes de l'Europe pour les inscrire dans la Constitution ». C'est d'ailleurs un problème de présenter ou d'affirmer les racines chrétiennes de l'ordre dans une constitution. Une constitution n'est pas forcément faite. C'est-à-dire que c'est l'agencement de tout un dispositif destiné à encadrer une société destinée à procurer aux citoyens la paix et l'harmonie. Est-ce qu'il est nécessaire de leur indiquer selon quelle voie il faut qu'ils s'orientent ? C'est un vrai problème. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure solution. Et on ne peut pas blâmer forcément ceux qui ont considéré qu'on ne devait pas le faire. Parenthèse. Mais ça, c'est la lecture pessimiste. Mais Benoît XVI, il répond autrement. Il répond, voilà, il y a deux solutions. Ou bien, quand on regarde l'évolution de l'Europe, notamment depuis les Lumières jusqu'à maintenant, on peut avoir une théorie qui se rapproche de celle de Spengler, considérant qu'il y a une Europe qui, au fond, vit à un rythme biologique et qu'il y a la naissance, il y a la croissance, il y a la maturité, et puis il y a le dépérissement et la mort. Il en parle dans son livre, il le dit, voilà, c'est une thèse qui, effectivement, est prise en considération et qu'il faut regarder de près. Mais il dit, moi, je préfère quand même considérer ce qu'est la thèse de Arnold Toynbee, à savoir qu'effectivement, il y a une évolution qui va vers un effacement du religieux, c'est-à-dire de la foi, par rapport à la raison, c'est-à-dire à ce qu'est l'agencement en termes techniques, matériels, juridiques et sociaux d'une société, et qu'il aboutit forcément qu'on arrive devant une sécularisation. C'est sur la sécularisation que Benoît XVI s'interroge, à travers le discours qu'il a fait à l'occasion du traité de Rome à Rome. Et la sécularisation, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait, on peut dire que la sécularisation, si vous voulez, c'est le fait, pour prendre une image très simple, de remplacer Noël par Halloween. Voilà, c'est-à-dire qu'on prend une fête profane et qu'on valorise au nom d'une fête religieuse. Voilà. Mais ça, c'est, je dirais, la sécularisation la plus banale. Je crois d'ailleurs qu'on est plutôt dans un état de post-sécularisation, de même qu'on est dans un état de post-modernité. La sécularisation, c'est le fait que, et qui est concomitante à la modernité, si la modernité, c'est l'arrachement de l'homme à son origine, et donc c'est la constitution autonome du sujet, indépendamment de la notion de création et par conséquent de dépendance et donc, je dirais, de salut. La sécularisation, c'est l'aboutissement. Ça veut dire que l'homme, maître de son corps, maître de la vie, maître de la nature, est confronté, selon chaque point de vue de chaque société, à exprimer dans une culture ce que représente son autonomie personnelle. Et Benoît XVI explique très bien dans son livre, c'est-à-dire qu'il voit bien qu'il est très difficile aux cultures de se saisir l'une par rapport à l'autre, puisque, au fond, elles sont elles-mêmes en référence avec une foi, dans le rapport raison et foi, qui n'est pas de la même combinaison selon qu'on est chrétien, selon qu'on est musulman, selon qu'on est bouddhiste, selon qu'on est d'ailleurs à l'intérieur de la chrétienté, orthodoxe plutôt, sinon protestant. Voilà. Alors, il voit ça dans le livre et il dit de façon très ouverte, mais ça c'est le penseur, c'est le professeur, qu'il faut essayer de réagir contre la sécularisation, c'est-à-dire contre l'hypertrophie
de la raison,
qui aboutit au fond à la sous-estimation de la religion. Il concède qu'il y a des hypertrophies de la religion. Il concède, je ne suis pas sûr qu'il ait toujours été d'accord avec Jean-Paul II dans les repentances, mais je pense qu'il concède qu'il y a une hypertrophie de la religion au moment des croisades, au moment de l'acquisition, etc. Et donc, il veut essayer d'obtenir quoi ? En faisant simplement un rappel à l'ordre, en disant, voilà, l'autonomie du sujet, peut-être, mais il faut bien que le sujet se remette par rapport à la raison, dans une perspective transcendantale, qui est celle de la création. La création étant aboutissant à ce qu'on appelle le droit naturel. Ce qu'il critique, c'est la disparition du droit naturel, au profit d'une dispersion du naturel selon la volonté de l'individu. Et il propose, en échange, le retour à ce qu'est, il appelle ça, une polyphonie, selon d'ailleurs, je dirais, la concertation entre les religions, donc c'est le dialogue interreligieux, polyphonie des relations entre la raison qui cherche la liberté et la foi, qui, elle, demande de pouvoir s'exprimer en toute liberté aux sociétés civiles, mais place l'homme devant sa propre liberté, c'est-à-dire la notion de ce que représente le salut de lui-même et de l'humanité.
Le décalogue, dans cette idée, doit rester un dénominateur commun ?
Tout à fait. Alors, ce qui est très intéressant et qu'on ne dit pas, c'est que, à lire ce livre, mais c'est que il y a à la fois, c'est la notion d'universalité catholique qui est propre à, je dirais, à la reprise de la notion d'universalité de l'Empire romain, je veux dire, elle existe chez Benoît XVI, mais il voit très bien qu'elle doit être confrontée à d'autres prétentions universelles dans le cadre d'autres formes de construction rationnelle des sociétés. Et ce qu'il déplore, c'est au fond que la raison se soit sécularisée uniquement du côté de ce qu'est le domaine de la technique, de la mécanique, et d'autre part de ce que représente le communautarisme aussi. Et qu'il cherche, lui, à l'inverse, le dialogue interreligieux doit féconder les deux les religions entre elles. Et naturellement, s'il dit la racine chrétienne de l'Europe, il pense bien pour l'Europe à quelque chose de spécifique. Ce qui n'exclut pas qu'il voit la possibilité, je dirais, dans le dialogue de conversion, notamment de ceux qui ne sont pas chrétiens, vers le christianisme. Chose intéressante d'ailleurs, vous avez vu qu'en ce moment, il y a une vague de conversion, du moins une appréciation de conversion beaucoup plus importante en Chine. C'est le moment où la Chine, se libérant partiellement de l'oppression du régime communiste, commence à avoir des poches de liberté. La propriété privée, par exemple, qui a été reconnue récemment et qui d'ailleurs donne des incidents assez cocasses, comme cette famille Wu, qui reste au milieu d'un grand chantier de travaux. Et on peut dire que le pape sent très bien que, c'est sa thèse, elle est défendable ou elle est peut-être critiquable, c'est que c'est l'Église qui a pris la liberté dans des systèmes qui sont des systèmes oppressifs. Et c'est pour ça que dans le débat qui a opposé à Vatican II les traditionalistes et les modernes, la liberté religieuse, le principe est, c'est la liberté pour chacun de croire ou de ne pas croire. Mais l'idée, c'est que pour autant qu'on croit, on doit essayer de faire croire. Et donc, il n'y a pas, si vous voulez, de zèle. Bon, mais en même temps, il y a, je dirais, une éthique. Et ce que critique, c'est très intéressant, le cardinal Ratzinger, la raison pour laquelle il demande à l'Europe, non pas « Europe, qu'as-tu fait de ton baptême ?», mais de bien vouloir revenir aux racines chrétiennes, y compris juridiquement, ce qu'il critique, lui, c'est le fait, chez Hans Küng, c'est l'idée d'une éthique mondiale. Il dit « Il n'y a pas d'éthique mondiale. Il n'y a une éthique en fonction des rapports qui sont des rapports historiques entre la foi et la raison. » Donc, dans le discours de Ratisbonne, il prône le rôle éminent qu'a joué la philosophie hellénistique, la philosophie grecque, par rapport à l'épanouissement de la foi chrétienne. Et par rapport à l'islam, il leur conseille aussi de revenir aux sources vives de ce qu'était un islam libéral, érudit, donc Averroès, par exemple, etc. Il n'ignore pas du tout le XIVe siècle, le carré Ratzinger, Benoît XVI, dans le discours de Ratisbonne. Simplement, je dirais que la discussion qu'il donne, la disputatio, efface un peu la réalité des conclusions. Alors je crois que c'est plutôt une lecture, non pas optimiste, mais une lecture constructive. Et il demande aux gens qui se ressaisissent. Je termine. Ce que demande Benoît XVI, c'est une chose qui, au fond, relève de l'ordre du pari, ou du moins du défi. Il dit aux chrétiens, voilà, soyez vous-même, d'où l'exhortation apostolique Sacramentum Caritatis. Vous, chrétiens, je ne demande rien à ceux qui ne sont pas chrétiens. Mais manifestez que vous êtes chrétien par rapport à cela. Soyez respectueux de ce qu'est la tradition de l'Église, c'est-à-dire les usages, de ce qu'est le message de l'Église, c'est-à-dire la révélation, de ce qu'est le discours de Dieu, c'est-à-dire la théologie, non pas le discours sur Dieu, le discours de Dieu, à travers les Écritures, à travers les pères de l'Église. Soyez peut-être un petit groupe, mariez-vous, ayez des enfants, considérez que la vie matrimoniale est essentiellement faite pour l'engendrement, la procréation, si vous voulez, et puis luttez contre les forces vives de ce qu'il appelle la bête humaine, à un moment donné, il utilise à un moment donné la comparaison avec le lion, puis ensuite elle vient avec l'ours. Il y a une imagerie extraordinaire dans le vocabulaire de Benoît XVI, de Ratzinger. Donc. Mais soyez, si j'ose dire, il le dit déjà dans Entrées aux communions, soyez un petit groupe, pusillus grex, mais fervent et convaincant. Et alors, immédiatement, on peut dire, ça a été dit par un certain nombre de gens, et notamment par un évêque français, en fait, il propose la construction du catholicisme en secte. Non, il propose simplement de revenir à ce qu'est l'aspiration verticale du catholicisme, et en particulier à revenir à une éthique conforme dans le comportement, en sachant qu'on ne peut pas en faire une éthique mondiale, et qu'il faut au contraire emprunter d'éthique à éthique pour faire une éthique, c'est une éthique du dialogue. C'est ça, et à l'intérieur de ça, il y a la paix. Alors c'est très compliqué, mais je veux dire, c'est constructif. Et le blâme qui est infligé, enfin, le constat, qui a été infligé en mars dernier, enfin il y a quelques jours, est un constat d'évidence. Alors le pape emploie des mots très très lourds, apostate, donc apostasie, ça veut dire véritablement renonciation à sa vocation catholique. Je dirais qu'il met en majeur quelque chose qui, dans sa pensée, est beaucoup plus compliqué et qui est décidé à saisir l'opinion publique. Ce qui d'ailleurs, ces derniers, peut-être je peux vous dire ça encore, je crois que le fait que ce soit le Saint-Siège qui défende l'Europe et les racines chrétiennes crée encore plus de complications que si c'était un parti politique ou des chrétiens eux-mêmes. Parce qu'automatiquement, on dit Europe Vaticane. On dit, oui, bien sûr, en plus, Europe réactionnaire, parce que le pape est contre dans le domaine des mœurs, tout ce qu'on a déjà énuméré. Donc Europe Vaticane, Europe réactionnaire, Europe obscurantiste. Mais finalement, je dirais, dans Humanité, Paul VI exalte le droit naturel au nom du Cantique des Cantiques, on se rend compte qu'un certain nombre d'appréhensions qu'il avait sur la dérive du droit naturel aboutissant finalement à ce qu'on peut appeler le clonage n'était pas si faux. Il y a là quelque chose qui, appuyé sur la conception du droit naturel qu'a l'Église, se révèle assez prophétique.
Eh bien, merci beaucoup Philippe Le Villain pour tous ces mots sur Benoît XVI et l'histoire de l'Église au XXe siècle. Je rappelle à nos auditeurs que vous avez dirigé le dictionnaire historique de la papauté paru chez Fayard. C'est chez ce même éditeur, donc Fayard, que va sortir le livre Benoît XVI, le dernier pape du XXe siècle. Ce livre sortira en septembre prochain. Je donne les références du livre du cardinal Joseph Ratzinger, L'Europe, ses fondements aujourd'hui et demain, Benoît XVI, et également paru Nation et Saint-Siège au XXe siècle de la Fondation Saint-Gé-Polignac. Ce sont les actes du colloque que vous avez organisé, Philippe Le Villain, avec Hélène Carrère-Noncos, paru chez Fayard. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Canal Académie et à très bientôt pour un nouveau jour dans l'histoire.
Merci à vous.